Yachel Ha'am Lishnot El Benot Moab. Et le peuple d'Israël, donc les Bnei Israël, ils ont commencé à avoir pratiqué la débauche avec les princes, les filles de Moab. Et alors, elles, ces filles de Moab, qui étaient des princesses souvent, et donc, qui ont été prostituées pour le. Comment est-ce qu'on dit? Sacrifiées pour la nation, prostituées pour la nation, pour le peuple. Elles ont appelé le peuple à participer à leur fête. On est participé, on fait des festins, on va boire, on va manger, etc. Alors évidemment, les festins en question, elles festoyaient en l'honneur de leur divinité, la divinité de Moab. Et le peuple il a été séduit par ces filles, dont c'était le job d'ailleurs. Ils ont mangé, et puis finalement, ils se sont prosternés devant les divinités en question. Et on nous dit ici, Israël, le clan d'Israël, ça veut dire ils ont collé littéralement, ils sont liés très fortement, le Baal Peor. À Baal Peor, vous vous souvenez, Baal Peor, c'est la dernière idole égyptienne. C'est marqué, on dit, par exemple, dans l'Aller à Gadol, on dit que Vassab Elohim, il a détruit tous les. Il pose beaucoup au moment de Yetziat Mitzrayim. Il a détruit les idoles. Il en a laissé une, la dernière, celle qui était à la frontière, qui s'appelle Baal Peor. Kadosh Baruch Hu a dit, cela, on ne la touche pas, on la laisse. Hachem avait une fonction pour ce Baal Peor. Et que là, l'Israël s'est adonné à Baal Peor. Et du coup, Hachem s'est mis en colère contre eux. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu prends les chefs du peuple, ceux qui sont les responsables, et pendre devant Hachem et à la face du soleil. Et comme ça, ça apaisera la colère d'Hachem. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, voilà le prix à payer pour apaiser ma colère. Alors c'est ce que Moshe Rabbeinu a ordonné aux Dayanim, aux juges d'Israël, Shoftei Israël. Il a dit, chacun a tué ses hommes, les gens qui sont autour de lui, tous ceux qui étaient Nitzmadim, les Baal Peor, tous ceux qui se sont liés justement à Baal Peor. Et voilà, Vehine Ish, l'Ibne Israël, il y a un homme parmi les Ibne Israël, Baal, Vayakre Velechav, et à Midianit, l'aîné Moshe, l'aîné Koladat ben Israël. Et il a approché, il avait une princesse égyptienne, une princesse Midianite, donc, et il a apostrophé Moshe Rabbeinu en public, devant tout le monde. Et tout le peuple pleurait. Voilà. Donc c'est un peu difficile à comprendre de quoi on parle. On parle de débauche qui a débouché sur l'idolâtrie. Hachem s'est fâché, donc on a tué plein de gens, on va voir. Puis tout à coup, on nous parle de ce Ish, Ibn Israël, qui est, dans cette parasha-là, il n'est pas nommé. Mais dans le parasha de Pinchas, il va être nommé. C'est Zimri. Et donc, il a apostrophé Moshe Rabbeinu. Et on ne sait rien dans le texte, on ne voit rien du tout. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Le texte ici. Alors, on va regarder dans Rashi. On va faire les choses sérieusement. Regardez donc ce que nous dit ici Rashi. Vashitim. Rashi. Karshma. C'est un endroit qui s'appelle comme ça. C'est la Gemara qui nous dit que Shittim, c'est un lieu. Liznot et Benot Moav. Commencez la débauche avec les filles de Moav. Alors Rashi, là, il vend la mèche. Aliede Atsad Bilam. Tedika de Chelek. La Gemara dans Sanhedrin, elle nous explique de quoi il s'agit. Toute cette histoire de la débauche, c'est ça le dernier conseil gratuit que Bilam a donné à Balak. Il lui a dit, écoute, bon, ça, la parole qui est, par laquelle je devais faire le job, ça ne marche pas. Je vais te donner un super conseil. Le Dieu d'Ebné Israël, il supporte pas la débauche. Alors, si tu arrives à les entraîner dans la débauche, tu as gagné. Ça, et ça de. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prostitué, y compris les princesses. Alors, même leurs filles, donc les filles du roi, etc., tout le monde était. Et l'une d'entre elles, la fille du roi, elle allait en disant, moi je n'irai qu'avec le chef d'Ebn Israël. Moi, je suis une super princesse, moi, il me faut le chef. Alors, bien sûr, Moshe Rabbeinu n'a pas pu la voir. Et il y a un chef, un des princes de la tribu de Shimon, qui est ce fameux Zimri, qui lui a dit, moi, je suis le prince. C'est moi le chef. Ok, tu viens avec moi. Et donc, il l'a prise, on peut imaginer comment il l'a pris vraiment comme. Et il l'a montré à Moshe Rabbeinu et devant tout le peuple, et il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi, est-ce que cette Midianite, elle est permise ou elle est interdite? Il n'a pas attendu la réponse de Moshe. Il a fait la réponse. Et si tu me dis qu'elle est interdite, alors je te demanderai à toi, Moshe, qui t'a permis ta Midianite à toi? Tsipora, c'est une Midianite, la femme de Moshe. Qui t'a permis? Si tu me dis que moi je ne peux pas épouser celle-là, qui t'a permis d'épouser Tsipora? Alors, bon, ça c'est ce qu'il va lui dire. Auparavant, Rashi, il commente encore un peu plus. Et il dit, donc c'était la Etsa de Bilam. Vaishtahavu l'Elohim. Donc, ils ont mangé, ils ont bu, festoyé avec ces femmes. Et puis, le prix à payer, c'est toujours la même histoire. Les femmes, elles vont raconter, bon, ok, je suis d'accord de coucher avec toi, mais il faut juste que tu te prosternes un petit peu devant ma petite idole, là. Donc, ils vont le faire. C'est ça, Mishtachavu l'Elohim. Kshetakaf Yitzro Alam. Quand les Bnei Israël était suffisamment échauffé par ses filles. Omer là, Hashmi Eli, quand ils ont demandé à ses filles de coucher avec eux. Alors, Vehi Motsia lo Mut Peor Mikheka. Alors, elle sortait une petite image, une petite statue, je sais pas, de Peor, qui est le Peor, qui est l'idole locale, là où ils étaient. Et elle lui disait, elle leur a dit, tu te prosternes à ça et je suis à toi. Alors cette idole de Baal Peor, pour les Égyptiens, c'est l'idole de la richesse. Alors, il y a Hazal qui explique que quand les Égyptiens ont voulu poursuivre les Bnei Israël, qui les ont finalement rattrapés à la mer, ils ont été renforcés par l'idée qu'ils ont vu, ah, le Dieu d'Israël, il n'a pas réussi à détruire l'idole Peor. Ça veut dire, ils sont dit, ah, notre argent, on va le récupérer. Les Juifs qui sont sortis avec des richesses égyptiennes, etc., on va tout récupérer. Donc, ça leur a donné de l'élan pour aller effectivement poursuivre les Bnei Israël. Et donc, il s'est passé ensuite toute l'histoire de la mer. Bon, maintenant, le problème de ce Baal Peor, il y a deux idoles chez les Goïms qui sont des idoles un peu particulières. Toutes les idoles s'adorent, on les adore en se prosternant, en leur disant « tu es mon Dieu », etc. Mais en part ça, chaque idole avait sa spécificité. Et il y a une idole qui se servait, s'adorait, si vous voulez, en lui jetant des pierres. Ça s'appelle Marcoulis, en lui jetant des pierres. On lui jetait des pierres et plus le tumulus de pierres était grand, plus on avait, mieux on avait servi l'idole. Et l'autre idole, c'est Peor. Peor. Pourquoi il s'appelle Peor? Alors Rachid dit, pourquoi c'est quoi ce nom de Peor? Elle dit, Al-Shem, Shepoarim, Lefanav, Piatabat, Umotsim, Rei, Bezoui, Avodato. Alors, cette idole-là, on l'adorait en déféquant sur elle. Et plus on produisait de matière sur le nez de cette idole, etc., mieux on l'avait servi. Alors vous voyez, ces deux idoles-là, on pourrait dire, elles représentent une espèce de récupération. Normalement, quand on jette des pierres, c'est l'expression de d'un mépris ou d'une volonté de détruire l'autre. Et là, justement, c'est une idole qui se nourrit de ta... Plus tu te révoltes, en quelque sorte, plus tu lances des pierres, c'est le mouvement de révolte, lancer la pierre. Alors, plus tu te révoltes contre elle, plus tu lui donnes de l'importance. Alors, c'est un principe qui est là. Ça veut dire que, d'une certaine manière, quand on est devant une idole, semble-t-il, le mieux, ce serait de l'ignorer complètement. C'est rien du tout, c'est rien. Alors bon, je n'ai pas de raison de faire un détour pour ne pas passer devant une idole. C'est rien du tout, je veux dire, c'est rien. Je fais pas de détour, je n'ai pas changé quoi que ce soit à cause de cette idole-là, y compris pas faire un détour. On voit que c'est pas tout à fait comme ça, parce que il y en a qui disent que quand on passe devant un temple idolâtre, certains disent une chose sur les églises, il y en a qui disent qu'il faut cracher, mais quand tu craches, tu lui donnes de l'importance. Quand tu passes, bon, c'est tout, il n'y a rien, c'est rien du tout, c'est rien, c'est du vent. Donc ça récupère la révolte. Et puis il y a le summum du mépris, c'est de pas seulement, je dirais, cracher sur vos tombes, mais c'est vraiment d'aller déféquer sur l'idole elle-même. Et la Gemara, elle rapporte que bon, il y a eu un bonhomme qui a rencontré une femme importante qui bon, elle lui a dit qu'elle allait juste, il pouvait faire le chemin avec elle, quoi, mais elle a peut-être un petit détour, elle va juste passer dans son idole, et quand on a vu ce qu'elle faisait, il s'est dit, moi, il a voulu exprimer son dégoût, son mépris, etc. Il est allé, il a produit super de matière. Alors on a clarifié extraordinaire, personne n'a jamais servi cette idole aussi bien que ce juif-là. est allé l'exprimer son mépris en le... Voilà. Ça, c'était peor. Donc, c'est aussi... C'est la récupération des déchets. Bon, ça vaut cher en bourse aujourd'hui. C'est une super action. Deux super actions. Franchement, c'est... À la fois Veolia et tout le monde, quoi. Tout ça, c'est des récupérations des déchets. C'est-à-dire que c'est un déchet, mais en fait, ça peut être une source de richesse. Donc là, c'est vraiment l'idolâtrie qui récupère tout. On récupère le mépris de l'idolâtrie, on récupère la révolte contre l'idolâtrie. C'est toujours encore dans l'idolâtrie. Ça veut dire que c'est tellement piégeant que tu ne sais même pas comment tu peux sortir. Face à ces idoles-là, c'est sûr que si tu vas déféquer sur... si quelqu'un va faire ce travail sur une autre idole, il risque de finir en prison ou bien d'être tué. Mais il existe une idole qui récupère tout ça. Qui récupère aussi les pierres qu'on jette, etc. Donc ça, c'est l'idole qu'Hachem a laissée. Et c'est cette idole-là. Ça veut aussi dire que les Bnei Israël ici... Je ne sais pas comment il faut le lire. J'essaye. Bon. Si on essaie de se mettre à la place de ces juifs-là, ils sont là, il y a les princesses, elles sont parées, etc. Ils ont choisi les plus belles, etc. Bon, elles sont disponibles. Et si on leur avait dit il faut vous prosterner devant une super idole, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait, parce que... Mais quand on leur dit c'est ça, Peor, hein, c'est sur Peor. Non, Peor, ça veut dire, ça me laisse, j'ai la conscience tranquille, là. Je vais exprimer mon mépris le plus terrible. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, parce que visiblement, elles leur ont dit de se prosterner devant, elles leur ont pas dit d'efféquer, etc. Mais bon, c'est une idole qui vit de ça, qui se. Et donc. C'est difficile de voir. Est-ce que le fait que c'était Peor, est-ce que ça peut être considéré comme une forme d'excuse? Ça veut dire, on a fait un truc, mais pour nous, c'était l'expression de notre mépris le plus complet. C'est ça que vous voulez, ok? Alors, c'est pas un prix qui nous a coûté vraiment cher. Ou alors, on dit, ça veut dire que vous êtes tombé tellement bas que vous êtes prêt à idolâtrer l'idole la plus basse de toutes. Je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est présenté. Et du coup, comme Hachem a mal pris toute cette histoire et qu'il y a eu, quand on dit, ils ont demandé aux Dayanim, etc., de juger les gens, c'est-à-dire qu'il y a une maguefa qui a commencé. Les gens ont commencé à mourir. Et donc, comme la tribu qui était la plus en forme là-bas, c'était la tribu de Shimon, donc c'est chez eux que ça a commencé, la mort. Alors, ils se sont tournés vers leur chef, là, ils lui ont dit, mais quoi, t'es planqué là dans la tente, tu bouges pas, et nous on est en train de mourir, mais fais quelque chose. Alors, du coup, il a voulu frapper un grand... montré qu'il est le chef, effectivement. Et donc, il a attaqué et montré qu'il était vraiment le chef. Il va attaquer le chef, il va attaquer Moshe. Alors, évidemment que ce qu'il dit, ça ne tient pas la route, parce que, premièrement, Tzipora, c'est avant Matan Torah, et avant Matan Torah, on avait le droit d'épouser. Deuxièmement, elle s'est ensuite convertie, comme tout le monde. Et troisièmement, Moshe Rabbeinu, on le sait depuis l'histoire de Myriam, Moshe Rabbeinu s'était séparé de sa femme. Hachem lui a dit, Tapo Amod, il m'a dit, toi tu restes là avec moi. Quand il a renvoyé tous les Bnei Israël après le Sinaï, rentrez chez vous, reprenez une vie conjugale, etc. Toi, Moshe, non, toi tu restes ici. Donc, ça commence même pas ce qu'il lui a dit. Mais bon, ça n'a pas besoin d'être argumenté. Et lui, donc, en public, comme en provocation, il a pénétré cette princesse devant tout le monde. Et c'est ce qu'on nous dit, hein, que Du coup, Pinchas, il a pris sa lance là et il les a embrochés. Et on explique qu'il les a embrochés alors qu'ils étaient. Lui, il était en elle, quoi. Il a embroché tout le monde. Donc ça fait partie de Nissim, comment sa lance a pu supporter le poids de ces deux personnes, comment lui, il a réussi à les tenir, etc. Et que s'il avait. C'est évident que si Zimri avait pu se dégager et qu'il ait tué Pinchas, il était en légitime défense. Parce que, en fait, le problème, c'est la réaction de Pinchas. Pinchas, il a vu Baya. Donc, d'abord, Hachem s'était mis en colère. Et Shalach Baem Magefa. Donc, Hachem a envoyé une Magefa. Et. Je m'ai dit à Moshe Rabbeinu comment est-ce qu'on pouvait apaiser la colère divine. C'est l'Ishpot et à Ovdim le Peor, juger et condamner les idolâtres. Voka Otam et à Ovdim, et donc il faut pendre ceux qui ont servi Peor. Et on nous dit « oka », ça veut dire « tlia », ça veut dire « pendre », « pendaison ». Comme c'est écrit dans, etc., dans Shmuel, c'est la même chose. Alors, bien entendu, il y a des problèmes avec ça, parce que, normalement, « din avodah zara », c'est « beskila ». Alors, on n'est pas tué par ce qu'il a. Mais en fait, dans la skila, il y a un deux temps dans la peine de mort qui s'appelle skila, qu'on appelle lapidation, mais c'est pas jeter les pierres, c'est tout à la fin quand le type sauf qu'il est mort parce que il est tombé, on l'a fait tomber de haut, ensuite on lui a posé d'énormes pierres dessus, etc. C'est tout à la fin, les témoins, le cas échéant, ils jettent des pierres, mais bon. Seulement une fois qu'il est mort. Alors, il y a un dîme qu'on le suspend, on le pend, immédiatement on le dépend. Et donc, cette histoire de pendaison, elle sert en quelque sorte, c'est comme c'est la fin de la peine de mort, ce qu'il a, qui est la peine de mort de l'Avodah Zara, bien qu'il ne soit pas mort de ce qu'il a. Mais en fait, on l'aura pratiqué quand même. Partie significative probablement de la pendaison, de la peine de mort qui sanctionne la Avodah Zara. Donc il leur a dit qu'il fallait pendre Neged HaShemesh en face du soleil. Pourquoi ? Pour que tout le monde voit bien. Il leur a dit, Argu ish et achiv, et ish et anashav, kol echad ve'echad midayanei Israël, aya oreg shnaim. Chaque dayan devait tuer de ses propres mains deux personnes. Ve'dayanei Israël, shmona ribo, ou shmona talafim. Et on sait par ailleurs, de la Gemara, que des juges en Israël, il y en avait 88 000. Donc ça veut dire qu'ils ont tué chacun d'eux, donc je vous laisse faire la multiplication. Et alors, Ve'ine ish mibne Israël ba, alors Rachid nous explique ce que je vous ai déjà dit. Nikbatsu, Shifto Shel Shimon, et Shel Zimri. La tribu de Shimon s'est rassemblée chez le chef Zimri, Shaya Nasi Shelahem, qui est leur prince. Amrulo, Anu Nidonim Bemita, Vata Yoshev. Nous, on est condamnés à mort, et toi, tu restes tranquille, là, peinard dans ta tente. Alors il a pris la Midianite, Kozvi Batsour. Rachid nous dit ce qui sera dit dans, par Saint Pinchas, que c'est Kozvi Batsour, c'est la fille du roi. Le Eine Moshe, et il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit aux yeux de Moshe, Amarlo, Moshe, Zou Asura ou Muteret. Vim Tomar Asura, Zbatitro, mi tira lecha. Tout ça, c'est dans la Gemara. Donc, si celle-là, elle est interdite pour moi, alors qui t'a permis d'épouser ta Midianite à toi? Vem Abochim, et le peuple pleurait, tout le monde pleurait. Alors, pourquoi il pleurait? Qu'est-ce qu'il y a à pleurer, là? Alors, Nit Alma, Mimenu Alacha. L'alacha, c'est Kol Aboel Aramit, Skeraim Pogimbo. Asgou Kulam, Bepriya. Pourquoi? Parce que Ba'egel, Amad Moshe, Keneged, Shishim Ribo. Shenemar, Ba'itran Ad Asher Dak, et Bekan, Rafou Yadav. Et là, Kide, Shiyavo Pinchas, Vitol, et Araouilo. Et là. Alors, pourquoi il pleurait? Il pleurait parce que, voilà, une tribu qui se révolte contre Moshe et Moshe il sait plus quoi faire et donc il pleure parce que quand il y a eu le veau d'or Moshe Rabbeinu il était tout seul contre tout le peuple et il n'a pas là, il a pris les choses en main, il a réduit le veau d'or en poudre, il leur a fait boire, etc. Et là Moshe Rabbeinu Nit Alma Alacha, c'est-à-dire il a oublié la Alacha. Il y a une Alacha. La Alacha, elle dit quelque chose de spécial. C'est une Alacha un peu spéciale. Elle dit que Boel Aramit, si un juif a un rapport avec une non-juive, il faut dire son idée là, je ne sais pas. En tout cas, Kanaim Pogimbo, c'est-à-dire les gens que ça choque profondément, ils ont le droit d'intervenir. Ils peuvent le tuer. Mais il faut savoir, ils peuvent le tuer, mais à leur risque, c'est péril. Tu peux aller le tuer. Maintenant, si le type il se retourne contre toi, il te tue, c'est mort. C'est mort et lui, il ne risque pas sa peau. Donc, c'est une halakha particulière parce que c'est une halakha. C'est halakha ve'en morinken. Ça veut dire, d'ordinaire, quand il y a une halakha, si tu vas demander au dayan, au juge, dis-moi la halakha dans cette histoire-là, est-ce qu'on peut manger cette graisse, est-ce qu'on peut pas la manger, est-ce qu'on peut faire ce travail shabbat, on peut faire, le dayan, il répond. Et là, si tu viens demander au dayan, est-ce qu'il faut le tuer, le type-là qui est en train de coucher avec la Midianite? Il répondra non. Si tu poses la question, c'est non. Par contre, si toi, tu es vraiment canaïm, c'est-à-dire tu es un canaï, tu es en colère, tu... Bon. Et, mais c'est très profond, et ce n'est pas personnel, c'est une colère qui vient de... Tu ne supportes pas la profanation, etc., que ça représente. Alors, tu peux y aller, mais il ne faut pas poser de questions. Et donc Moshe, il aurait... Bon, quand on dit « Nitalma Alacha », le problème, c'est que je n'ai pas toujours compris qu'est-ce que ça veut dire « Nitalma Alacha ». Ça veut dire quoi? Est-ce que lui, c'est lui qui devait aller le tuer? Parce que si quelqu'un lui demande, il va répondre « C'est Ma Alacha Ve'el Morinken ». Si Pinchas lui avait demandé « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et d'ailleurs, il lui a demandé Pinchas. Et Moshe Rabbeinu a répondu, celui qui a la lettre, il n'a qu'à la lire. Il n'a pas répondu sur ce qu'il fallait faire. Alors, Vayar, effectivement, alors Pinchas a vu, il a vu ce qui se passait. Ra'a amase veniskar halakha. Et lui, il s'est souvenu de la halakha de Kanaim Pogimbo. Amar lo le Moshe. Alors, S'il s'est souvenu de la halakha, je ne comprends pas pourquoi il a interrogé Moshe, mais bon. Il a dit à Moshe, « Bekublani mimcha, j'ai reçu un enseignement de toi, qui est Aboel Aramid, Kanaim Pogimbo. » Alors, Amarlo, il lui a dit, « Kariana de Igarta, iu leve parvanka. » Celui qui a qui lit la lettre, eh bien, qu'il la mette en action, en œuvre. Immédiatement, Vaikar Romar Biado, il a pris sa lance, il a pris une lance, et il est allé El Akuba, El Aoel, il allait donc dans la tente en question, El Kubata, Kemoal Chayain Vakeva, c'est le ventre, quoi. Kiven betoch zachut shel zimri nakvut shela. Donc sa lance, il a fait attention qu'elle embroche le sexe de Zimri et celui de Cosby. Pour que ça soit bien clair qu'il les a pris à une situation où il n'y avait pas le droit d'être. Parce que s'il les avait tués autrement, alors il aurait pu dire non, on a fait semblant, on a proximité des corps, mais il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de pénétration. Donc il fallait que la lance montre bien la pénétration. Raoukoulam, chez l'Olechina Morgan. Ça, tout le monde a bien vu que ce n'est pas gratuit, il n'a pas simplement tué. Et alors là, Rashi rapporte qu'Arben Issim n'a soulo, comme c'est marqué dans le Sifri, dans le Midrash, etc. Il y a plein de Nissim, parce que comment est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? Il y avait les gens de Shimon qui étaient autour de la tente, on ne pouvait pas entrer comme ça. Comment est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a fait comme s'il faisait partie de... Lui aussi, il allait se révolter contre Moshe. Un peu comme quand Caleb a commencé à parler. On l'a laissé parler parce qu'il croyait qu'il allait dire du mal de Moshe. Bon, ça c'est l'histoire de... Cette histoire de comment ça s'est passé. Mais ce qui est intéressant ici, enfin, tout est intéressant, mais il faut se poser la question pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas répondu à Zimri. Je vous ai dit qu'il y avait plein de bonnes réponses. Pourquoi il ne les a pas données? Et ensuite, il y a Chazal qui décrit un peu mieux la Gemara dans Sanhedrin, qui dit que Zimri, il a saisi Cosby comme ça, et il l'a montré à Moshe, et il lui a dit Ben Amram. Bon, il ne lui a pas dit Moshe. Quand ils disent Ben Amram, c'est parce qu'ils sont en train de dire, ils ne veulent même pas dire son nom, quoi. Le fils d'Amram, Zou Asura ou Muteret, Vim Tomar Asura, Batitro, Meitirala. Talman menu alacha, vayar pinchas, rama sev niskar alacha, etc. Et le Midrash dit que quand ils pleuraient, les Bnei Israël, quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont dit Kriyat Shema. Ils ont dit le Shema. Donc la question c'est que, pourquoi tout à coup ils se sont mis à dire le Shema à cet endroit-là, dans cette situation-là. Alors, Abov Sheter ici donne une réponse qui en soit intéressante. C'est que quand on a affaire à quelqu'un qui nie des valeurs fondamentales, la question se pose, est-ce qu'il faut discuter avec lui pour essayer de le persuader, le convaincre, lui montrer qu'il a tort, etc. Ou est-ce qu'il ne faut pas discuter avec? Alors, il dit qu'en vérité, il y a deux situations différentes. Quand on voit que la personne est en train de... Elle va faire une avéra, et toi, tu veux l'en empêcher, alors, si c'est quelqu'un dont tu vois que qui fait la avéra parce qu'il n'arrive pas à résister à son désir. Là, il a une femme là, à sa portée. Qu'est-ce qu'il peut faire, je veux dire. À ce moment-là, on peut essayer de discuter avec quelqu'un, parce que peut-être il reste encore quelque chose en lui de suffisamment raisonnable. Et quand la personne fait ce qu'elle fait pour se révolter contre Hachem, ça ne sert à rien de discuter. Parce que ce n'est pas des arguments, ce n'est pas à cause d'arguments, il veut se révolter. Donc il ne faut pas discuter. Et donc chez Zimri, mon cher Rabbeinu a vu que Zimri, en fait, lui, il ne faisait pas partie des gens qui étaient directement séduits par les princesses, visiblement, puisqu'il était dans la tente. Mais quand il l'a fait parce que sa tribu lui a dit « Quoi, tu ne nous défends pas, c'est toi le prince de la tribu, à toi à faire quelque chose. » Donc, il a fait quelque chose et il a pris cette princesse-là pour attaquer Moshe, pour montrer qu'il était contre le... Enfin, il pensait que ces femmes ne devaient pas être interdites parce que... Et du coup, il a donné des arguments fallacieux et tout ce qu'on veut, mais Moshe n'a pas répondu parce qu'on ne peut pas répondre à quelqu'un dans cette situation-là. Ça ne sert à rien, en fait. Et ensuite, cette idée de... Pourquoi dire Kriyat Shema ? C'est quoi Kriyat Shema ? Kriyat Shema, c'est la proclamation de mon émouna, ma confiance en Hachem. Voilà, effectivement, je suis ma'amin, Hachem est Echad, etc. Donc, dire le Shema, c'est se renforcer en émouna. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit le Shema ? Parce que ce qu'ils voyaient, c'était la négation de... C'était une attaque contre Moshe Rabbeinu, mais qui était une attaque contre la Torah, contre Bichlal, toutes les valeurs de la Torah, en réalité. De nouveau, une nouvelle attaque, un peu du style de Korach, comme ça, où on attaque la Torah elle-même. Et donc, quelqu'un manifeste un manque d'émouna. Quand tu es devant une situation de manque d'émouna, il faut savoir que ça a un impact, et donc il faut compenser tout de suite. Ils ont dit qu'il y a un chemin pour se renforcer en émouna, pour contrer l'impact du manque d'émouna qui était manifeste devant eux. Alors, il y a un mot qui est intéressant quand même, qui est, ce mot-là en vérité, il est dans la parasha suivante, dans Pinchas. Hachem dit, il reprend au début de Pinchas, on reprend, on dit Pinchas ben Lazar ben Aaron à Cohen, et Shiv et Hamati, il a apaisé ma colère, mais al Bnei Israël, cette colère qu'il y avait contre les Bnei Israël, ve Kano et Kinati betocham. Ou Kano et Kinati, c'est une drôle de. L'expression, qu'est-ce que ça veut dire, Bekano et Kinati? Rashi dit, Benokmo et Nigmati. Bekotspo, Taketsev, Shayali, Iktov. Kolashon Kina, ou Amitrare, Linkom, Nekama, Nikman Dava. Donc, en fait, ce qui se passe ici, kina, la kina, c'est la jalousie. Et donc, le pasuk dit, Hachem dit, voilà, moi, j'aurais dû me venger devant cette infidélité du clan Israël qui suit l'idole, suit une idole qui m'abandonne en quelque sorte. Et ma colère, la vengeance contre les Bnei Israël, c'est de détruire les Bnei Israël. C'est ce qu'il a fait. Tu vas tuer tous les gens qui ont participé au culte de Peor. Comme ça, je m'apaiserai. Donc, cette kina qui est à la fois jalousie, vengeance, etc. Ce qui est dit ici, c'est que Pinchas, il s'est quasiment substitué à Hachem. Bekano et kinati betocha. C'est-à-dire, je devais me venger, punir les Bnei Israël, et lui, il a fait le job à ma place. Et donc, c'est tellement énorme ce qu'on attribue à Pinchas, parce que on voit très bien l'importance extraordinaire de cette démarche, parce que c'est le passage qui dit ensuite « La reine est mort, ineni notello et briti shalom. » Hachem dit « Parce qu'il a fait ça, alors je lui donne mon alliance, alliance de paix, c'est-à-dire il va devenir, lui, Cohen. » Lui qui n'était pas de naissance dans sa, au moment de, comme je vous ai dit, il ne l'était pas. Maintenant, il devient Cohen, lui et toute sa descendance. Donc, c'est le seul Cohen qui a, en quelque sorte, mérité de passer, par sa conduite, il a passé du stade d'Israël à un stade de Cohen. Personne ne s'est jamais arrivé à personne. Peut-être qu'on peut dire que la raison pour laquelle Aaron est devenu Kohen Gadol, etc., c'est peut-être lié à ses mérites, à tout ce qu'il a fait pour les Bnei Israël en Mitzrayim, etc. Mais là, que quelqu'un ait une conduite telle que ça lui vaille de devenir Kohen, c'est incroyable. Il y a une discussion dans la Gemara pour savoir, quand les Kohanim font leur travail, ils font le travail au Beit HaMikdash, est-ce qu'ils sont Shluchei Didan ou Shluchei de Rachmana? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'ils sont nos envoyés, en fait? Le Klal Israël devrait faire la Avoda et il y a des Shluchim, il y a des gens qui représentent le Klal Israël. Et ce sont les Kohanim, ou bien est-ce qu'ils sont du côté d'Hachem, en fait, les Kohanim? C'est-à-dire ils font le travail de réception, de, etc. Ils font un travail que, voilà, les Bnei Israël, ils amènent leur korbanot, mais tout de suite, ensuite, par la suite, c'est quelque chose qui se fait pour Hachem, autour d'Hachem, et c'est les Kohanim qui font le job. Et la halakha, elle est qu'ils sont Shluchei de Rachmana, ils sont les Shluchim de l'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on disait ici, donc, quelque part, Pinchas, il s'est bombardé Shaliach d'Hachem. Je fais ce qu'Hachem devrait faire. Et Hachem a accepté, en quelque sorte, que quelqu'un puisse faire le travail à sa place. Du coup, quand Pinchas a fait le travail, la magéfa s'est arrêtée. La mort, le fléau, là, tu sais qu'il devait y avoir 24 000 morts, finalement, quand même. Mais ça s'est arrêté là parce que Pinchas est intervenu. Hachem a plus besoin de se venger parce que Pinchas l'a vengé. Ça veut dire que quand Pinchas il fait ce travail-là, il se substitue vraiment à Hachem. Ça, ce qu'il fait là, ça vaut la mort du clan Israël quasiment. Tuer ce, ce Zimri avec sa copine, là, enfin, ce n'est pas vraiment sa copine, a priori, c'est celle qui nous sert pour attaquer Moshe Rabbeinu. C'est tellement important, c'est faut entendre ce qu'il dit là, c'est la même chose que de tuer le clan Israël, quoi. Quelqu'un peut, un être humain est donc été capable de Kano et de Kinati. C'est quelque chose de tout à fait remarquable, très très, très étonnant. Bon, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à Pinchas, par rapport à ce qui s'est passé là. Ça c'est le dernier conseil de Bilam. Bilam renvoyé, il dit à Balak, il dit je te donne encore un conseil gratuit là. C'est ça, ça marche. Et ça veut dire que, au fond d'eux-mêmes, de lui-même, le prince des Goïm, quoi, quelque part. Bilam, c'est le Navi des Goïm, il ne faut pas oublier que Bilam, a priori, c'est le Moshe de Romotarlam. Il s'est mal conduit, mais il a des caractéristiques comparables à celles de Moshe, parce que s'il ne les avait pas, alors l'argument qu'à la fin des temps, les goïms vont utiliser, ils vont dire, mais si tu nous avais envoyé quelqu'un comme Moshe, nous aussi on aurait fait Tchouva. Hachem dit, je vous ai envoyé quelqu'un. Je vous ai envoyé Bilam. Si Hachem dit « Je vous ai envoyé Bilam », ça veut dire que Bilam, il avait de quoi en réalité faire réussir les goïms au niveau où il pouvait réussir. Et au contraire, il les a enfoncés, quoi. Lui-même, il s'est totalement enfoncé. Alors, ce Bilam, qui est, d'après ce Chazal, espèce d'équivalent de Moshe Rabbeinu, pas qu'il soit au niveau de Moshe Rabbeinu, mais il y a une potentialité, parce que sinon ça ne commence pas. Sinon, qu'est-ce qu'Hachem a répondu au Goïm ? Je vous ai envoyé. S'il lui dit, les Goïm peuvent le. S'ils ne répondent pas, ça veut dire qu'ils savent qu'effectivement, il y avait chez Bilam de quoi les faire réussir. Parce que si c'était. Si Bilam n'avait pas les moyens, alors ce n'est pas une réponse qu'Hachem a dit, je vous ai envoyé. Ils lui disent, mais si tu nous avais envoyé M. 100, il lui répond, oui, je vous ai envoyé M. 10. Quoi la réponse? Alors ce Bilam, c'est un bonhomme très étrange, parce que c'est quoi la force de Bilam? Vous vous souvenez de la situation, c'est Balak, il a été nommé roi, bien qu'il ne soit pas vraiment de ce peuple, tout ce que vous voulez, on ne va pas entrer là-dedans, parce qu'ils sont complètement pétrifiés, parce qu'en vérité, Moab pensait qu'il y avait le peuple des Édom, ou Émorim, les Émorim, Émor plutôt, et les Émoréens, qui était entre les Bnei Israël qui arrivaient et eux-mêmes, il y avait ce peuple qui était puissant. Donc ils se sentaient à l'abri. Bon, les Bnei Israël, ils vont être arrêtés par les Moréens. Alors quand ils ont appris que les Moréens, ils ont été complètement battus à plat de couture, et que alors c'est la panique. Voilà, les Juifs sont les Israéliens, les Bnei Israël. Ils sont là et ils sont en train d'envahir les pays. On est fichu. Il y a une part de parano, tout ce que vous voulez là-dedans. Mais bon, ils sont complètement paumés et ils vont chercher du secours chez quasiment leurs ennemis, chercher un Midianite pour faire pour le prendre comme roi de Moab, etc. Balak lui-même, c'est aussi un magicien. Ils sont tous un peu magiciens, là, dans tous ces peuples-là. Bon, mais lui, sa magie, il sait qu'avec sa magie, il ne pourra pas arrêter les Israël. Alors, il a fait une recherche intéressante, intelligente, on peut dire. Il s'est dit, mais c'est quoi la force de ce peuple? C'est qu'il a un dirigeant. Quelle est la force de ce dirigeant? Sa force, c'est la parole. Alors, lutter contre les Bnei Israël, il faut qu'on mette quelqu'un avec une parole puissante en face de Moshe. On a cherché qui avait la parole la plus puissante, alors, ben voilà, c'est le Navi, c'est le prophète. Alors, ils envoient des émissaires pour lui demander de venir et de maudire le peuple. Ça, puisqu'il y a une force de malédiction, il va maudire le peuple d'Israël. Je vais poser une première question. Et on peut lutter contre un peuple. Est-ce qu'il faut affaiblir le peuple ou est-ce que ce ne serait pas mieux que toi, tu sois plus fort? Ah, bénis-nous pour qu'on soit beaucoup plus fort. C'est mieux, c'est au lieu seulement d'affaiblir l'autre. Voilà. S'il est béni, ben, il y aura aussi des effets secondaires positifs pour lui. Si on se contente d'affaiblir Israël, parce que Balak ne lui demande pas. Non, il ne lui demande pas, mais quand il lui envoie le message, il lui dit, j'ai entendu que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. La vérité, c'est que Balak, il sait très bien que ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la flatterie. Il sait très bien qu'en vérité, il a pas de pouvoir de bénédiction du tout. Et même son pouvoir de malédiction, c'est pas la force. C'est pas par la force de sa parole. Bilam sait quelque chose du fonctionnement du monde. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais chaque jour, il y a une fraction de seconde, Hachem se met en colère sur le monde. Comme s'il y avait la nécessité d'une soupape, il fallait un peu laisser partir un peu de... Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et la puissance de Bilam, c'est qu'il savait quand ça arrivait. Et si tu prends comme image, c'est comme une espèce de foudre, quoi, qui est divine. Il savait guider la foudre pour qu'elle tombe là où il voulait qu'elle tombe. Il n'était pas capable dans la foudre, mais il savait quand elle avait lieu et il savait la guider. Il avait un système de guidage. C'est comme s'il avait eu un paratonnerre, quoi. C'est-à-dire on attire la foudre là où on veut qu'elle soit. Donc il avait un espèce de paratonnerre, il attirait la foudre. Là où il voulait qu'elle tombe. Par conséquent, évidemment que cette connaissance-là, elle ne lui permettait pas de bénir, parce que ce qu'il avait, c'est la foudre seulement, la destruction. Donc ça va seulement pour maudire. Mais bon, voilà qu'il savait que vraiment question, il fallait passer suffisamment de pommade pour qu'il accepte de venir. Je sais très bien que ce que tu bénis est béni, etc. Hein? Tout le monde. L'ami sait très bien que ce n'est pas vrai. Mais bon, ça a été dit devant les Sarim Moab, dans les princes de Moab, etc. Qui ne savent pas tout ça. Balak, il le sait, mais tout le monde ne le sait pas. Alors. Lui donne un pouvoir parce qu'il fait comme si c'était sa parole qui avait fait. En vérité, c'est pas la parole. Il se débrouillait pour parler un moment où voilà, ça allait être suivi d'effet parce qu'il savait quand la colère divine allait se manifester et qu'il savait qu'il allait pouvoir la faire tomber ici ou là, à la force de Bilam. Non, Bilam, il va maudire avec ça, il peut faire du mal au clan Israël. Il va faire tomber la foudre sur le clan Israël. Comment il va faire? Il va chercher des points de vue, c'est-à-dire de placer la caméra à des endroits où on peut voir quelque chose de négatif sur le clan Israël. À ce moment-là, il peut faire tomber sur quelque chose de négatif et faire tomber la foudre en question. C'était ça l'idée. Le grand problème pour Bilam, c'est que bon, il faut que Hachem se mette en colère. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que si j'avais dû écrire le scénario, j'aurais dit que pour sauver le clan d'Israël, Hachem a fait en sorte que Bilam n'avait pas son pouvoir. Il lui a enlevé ce pouvoir qu'Hachem lui a donné. Il peut le lui enlever pour les jours où il va tourner autour du clan d'Israël pour le maudire. En ces jours-là, il n'a pas le pouvoir, point barre, c'est tout. Et on voit que ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'Hachem change l'ordre du monde. Ces jours-là, il ne s'est pas mis en colère. C'est un peu étonnant. Bon, on parle de quelque chose qui est nécessaire au fonctionnement du monde. Sinon, pourquoi est-ce qu'Hachem se met en colère tous les jours? Eh bien, Hachem a changé l'ordre du monde pour sauver le peuple d'Israël. Alors qu'il y avait un moyen plus simple, c'est intervenir sur Bilam pour que Bilam ne puisse pas faire les choses. On ne va pas enlever à Bilam son pouvoir. Mais par contre, on va changer les conditions initiales. Quoi. On va changer les conditions. Et Hachem va ne pas se mettre en colère. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais de toute manière pas ce que ça veut dire que c'est nécessaire qu'il se mette en colère tous les jours. Je ne sais pas non plus ce que ça fait quand il ne se met pas en colère. A priori, si c'est nécessaire pour l'équilibre du monde, alors c'est quoi? Ça veut dire que pour le clan d'Israël, Hachem a fait fonctionner le monde à un moment donné de façon surnaturelle. Pendant ces jours-là, le monde n'a pas fonctionné avec les règles de la physique divine en question, avec colère pendant une certaine fraction de seconde. Il n'y a pas eu. Donc on voit très bien que Hachem fait pour le clan d'Israël fait des choses, c'est-à-dire que quelque part, c'est le clan d'Israël qui vit dans un autre monde. Enfin, on change le monde, pas du tout qu'on va enlever un pouvoir à quelqu'un, non, lui, il est là avec son pouvoir, seulement il ne peut rien faire, puisqu'il n'y a pas eu de foudre. Il ne peut pas la détourner. Et on comprend que, du coup, dans ce nouveau monde, même Bilam, dans un monde dans lequel Hachem ne se met pas en colère, si vous voulez, même Bilam qui veut dire des choses négatives, il est obligé de dire des choses positives. Dans ce monde-là, on ne peut pas parler contre le clan d'Israël. Mais, quelque part, ce monde-là, il est visiblement un monde... disons, momentané, si on peut parler. Hachem va sauver le clan d'Israël quand le clan d'Israël mérite d'être sauvé. Et c'est pour ça que quand le clan d'Israël démérite, alors les clalotes deviennent des clalotes. Parce que dans le monde dans lequel il voulait les donner, il les pensait, c'est des clalotes. Simplement, ce monde-là, pour le temps de la collaboration Balak-Bilam, ce monde-là, il a été mis en parenthèse et un autre type de monde a fonctionné pendant ce temps-là. Un monde différent, dans lequel Hachem ne se met pas en colère. Voilà. C'est comme ça que je me représente les choses. Je peux penser autrement, bien sûr. Mais du coup, ça dépend toujours de l'état du clan Israël. Quand ils ne se sentent pas bien, quand ils ne sont pas bien, ils ne méritent pas, les clalotes peuvent tomber. Parce qu'on retourne dans le monde dans lequel les clalotes sont les clalotes. On voit très bien que Bilam, c'est un menteur et c'est... Balak lui envoie des émissaires. Et il leur dit, les émissaires viennent et disent au nom de Balak, on t'invite à venir maudire le clan d'Israël. Alors il dit, là jusque-là, il a l'air parfait celui-là. Il dit, moi je ne peux pas grand-chose, je vais demander à Hachem. Sans Hachem, je ne peux rien faire. Donc, passez la nuit ici. Demain matin, je vous dirai ce qu'Hachem m'a dit. Le malin, Hachem lui dit quoi? Hachem lui dit, tu ne vas pas avec eux et tu ne maudiras pas les bénis Israël. Il a dit deux choses. Le matin, qu'est-ce qu'il leur dit? Hachem, il ne me laisse pas aller avec vous. C'est tout ce qu'il dit. Donc, il a formulé les choses de telle sorte qu'on puisse entendre, vous n'êtes pas suffisamment important pour que j'aille avec vous. Et c'est ce qu'ils ont compris. Ils retournent chez Balak, et Balak envoie des gens plus titrés, peut-être plus riches, plus que vous, etc. Une nouvelle équipe. Bon, voilà. Maintenant, on fait la même chose. Il dit, je ne peux rien faire, ça. Et alors, Hachem lui dit que je ne veux pas que tu ailles avec eux. Et tu diras de toute manière, tu diras ce que je te dirai de dire. Alors, il ne leur dit pas que je ne veux pas aller avec eux. Voilà, ok, maintenant. Donc il fait comme si je peux m'arranger avec Hachem. C'est vrai que je dépends de lui, mais je suis quand même quelqu'un suffisamment important pour que quand moi je demande quelque chose, je vais l'obtenir. Un peu comme si Moshe demande, Abdil et Dalot. Alors, ce qui est très intéressant, réflexion, c'est que dans la Mishnah de Pirkei Avot, Bilam n'est pas du tout comparé à Moshe. Il est comparé à Abraham Avinu. Au point qu'on dit quelque chose d'assez étrange. La Mishnah, elle dit. Elle énumère trois caractéristiques positives. Elle dit, celui qui a ces trois caractéristiques-là, il est mis Talmidav chez l'Avraham Avinu. Il est parti des élèves d'Avraham Avinu. Et celui qui a, c'est les mêmes sujets, mais côté négatif, quoi, au lieu de prendre la parole pour dire du bien, c'est prendre la parole pour dire du mal, quoi. Celui-là, Aréo, il est Talmidav chez Bilam. Donc on voit que la comparaison, c'est Bilam, Abraham. Et ensuite, on dit qu'il est mis Talmidav. Un Talmid, c'est quelqu'un qui a un maître. Et le maître lui a enseigné les choses. Quand il s'agit de bonnes choses, de bonnes midot, on comprend qu'on ait besoin d'un maître, parce que naturellement, on n'est pas tellement bon. On a besoin d'un maître qui t'explique, qui te montre, qui paye de sa personne, qui te montre, etc. Donc, voilà, tu fais partie des Talmidim. Et pourquoi, pour faire le mal, on n'a pas besoin de rebelles. Pourquoi ils sont les Talmidim chez Bilam? Ils sont les Talmidim de Bilam. on a ces mauvaises qualités-là. C'est défaut, pardon. Si on a ces défauts-là, on les a. Ça veut dire que tu ne travailles pas sur toi-même. Naturellement, l'homme, il veut toujours plus. L'homme, il a de la gava, etc. Il est jaloux de l'autre. Tout ça, c'est naturel. On n'a pas besoin d'arriver pour ça. Donc, il faut arriver à comprendre. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Pourquoi on dit qu'il est Talmid de Bilam? Qu'est-ce que ça veut dire, Talmid de Bilam? Et d'un autre côté, il y a justement ce... Abraham, c'est quand même le créateur, enfin, celui qui a commencé le clan d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Bilam, il a quelque chose à voir avec la création du monde, avec la création des Umot HaOlam. Il y a un Chazal, effectivement. Il dit que Bilam, c'est un peu plus kabbalistique comme ça, que Bilam, c'est le père des Umot HaOlam. Il est leur père, quelque part. C'est à ce titre-là que peut-il le consulte, etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut le comparer à Abraham Avinu. Bon, si c'est par rapport à la Ta'ana des Montaolam au moment du Mashiach, à la fin de l'histoire, quand ils diront si tu nous avais envoyé un Moshe, etc. Alors on le compare à Moshe. Il le compare à la fois à Moshe et aussi à Abraham Avinu. Voilà, c'est un sujet pour de réflexion. Voilà. Ok, avec ça.